Merci aux musiciens de nous conduire comme ça devant le trône. Et puis la semaine prochaine, on sera ensemble. On dira aux annonces à 9h et à 11h, hein, puisque les protocoles ne nous permettent pas encore d'être tous ensemble. J'espère que ce sera le cas en juillet. Oh, merci beaucoup. C'est bon de... Ah, c'est chouette ce premier chant. Oh, pourrais-je imaginer ce qu'on va vivre, mais ce qu'on peut déjà vivre aussi maintenant. Et un jour, on va... Pendant l'éternité, on sera là avec lui, on va collaborer, on va voir sa gloire. Est-ce qu'on peut imaginer ça? J'entendais pendant le dernier chant, quand on célèbre ce Dieu infiniment grand, cette parole que Paul dit aux Colossiens, que personne ne vous prive de la victoire. J'entendais que le Seigneur disait ça à son Église. Nous célébrons, nous vivons avec un Dieu infiniment grand. Rien ne peut empêcher la victoire dans nos vies. Peut-être il y a des combats personnels, peut-être dans certains départements de ta vie, où peut-être c'est beaucoup plus difficile, que personne ne te prive de la victoire. Le Dieu que nous avons est un Dieu infiniment grand. Et on n'est pas des misérables sans capacité. On est en train d'aborder un des points peut-être les plus importants dans ce qui a été déposé en nous, dans ce potentiel qui est en nous, l'esprit du Christ qui vient en nous. Le chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui croit certaines choses, oui, certainement, mais qui a été régénéré, on va parler de cela encore aujourd'hui, qui a été visité, qui a un tel potentiel, qui, béni soit Dieu, dit Paul, parce qu'en Jésus-Christ, il nous accorde la victoire. On peut vivre une vie moralement, spirituellement, j'ai envie de dire, même physiquement. Un niveau incroyable. On parlait de ça avec plusieurs cette semaine. On va sur Mars. On construit des choses de plus en plus complexes, de la Terre. On conduit un robot sur Mars. On prend des voitures tellement sophistiquées. Je prends un petit téléphone comme cela et je peux parler avec un ami de l'autre côté de la planète. L'esprit qui est en nous est un esprit encore bien plus grand, bien plus sophistiqué, bien plus fort, pur moralement, fort spirituellement. Jésus dit, ne craignez pas. Quand vous devrez aller au tribunal ou dans d'autres situations, l'esprit va. Il y a un tel potentiel. Alors, peut-être, nous n'avons pas inventé la fusée pour aller sur Mars, mais au niveau de la vie spirituelle, là, nous sommes attendus. Ça, c'est notre ère de bataille. Un de mes petits-fils, pour l'instant, raffole l'histoire de David et de Goliath. Et il y a des beaux livres. Hein. Un beau petit David, il était roux. Et le texte dit, un des plus beaux versets de l'Écriture, « Et il était beau, comme tous les roux. » Il ne l'a pas mis, mais bon, il le pensait. Et une petite pierre, parce qu'il était habité par une conviction. Goliath, c'est 3 mètres. Une armature incroyable, invincible. Achille des temps modernes. Il est ancien. Mais avec ce potentiel que David avait dans le Seigneur, petite pierre à terre. C'est là où nous sommes attendus. C'est là notre ère de combat. Pas par notre force, par notre puissance, dit Zacharie, mais par l'Esprit de l'Éternel. Donc on a besoin de devenir des experts. Pas à Manhattan, ni à Miami, ni à Charleroi. Mais là où tu es, l'Esprit qui est en toi peut faire de toi. Quand ce gaillard regardait Étienne, acte 7. Il ne pouvait pas résister à la sagesse d'Étienne. Parce qu'il était diplômé d'Harvard, pas du tout. Mais il y avait quelqu'un en lui qui le rendait plus sage que tous ces théologiens. Il ne pouvait pas supporter. Son visage était comme celui d'un ange. Ne néglige pas ce potentiel qui est en toi, le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Je voudrais, encore ce mois-ci, pendant un ou deux messages encore, vraiment nous équiper. Et aujourd'hui, je pense, la dernière fois que Christophe était avec nous, il nous a aidés encore à comprendre que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne regarde pas les dénominations en disant « je vais plus donner à celle-là ». Non, non. Quand tu deviens enfant de Dieu, ton héritage est le même. L'Esprit vient vivre en toi. La différence, c'est comment tu vas vivre. Quelle place vas-tu lui laisser? Quelle place vas-tu lui laisser? Et peut-être, ces choses te font un peu peur parce que tu as vu des débordements. C'est pourquoi le premier message... J'ai fait un peu un rappel de pas mal de choses qu'on a déjà vues, mais le 2 et le 3, le troisième aujourd'hui, je voudrais encore mettre un bon cadre biblique, théologique sur ce sujet, parce que je pense que parfois, parce qu'on n'a pas suffisamment bien balisé, alors on fait n'importe quoi. C'est un petit peu comme si, moi je veux jouer au tennis, mais moi j'ai pas besoin de ligne, pas besoin de filet. Hein, ouais, je veux jouer au foot, mais pas besoin de règles, quoi. Oui, pourquoi il n'y a que le gardien qui peut prendre la balle en main? Oui, c'est vrai que c'est plus gai si tout le monde veut prendre la balle en main, mais tu vas voir, ça va être nettement moins amusant. Il y a un cadre biblique aussi dans la vie de l'esprit. Hein, Paul disait, je suis content de voir le bon ordre qui règne parmi vous. Dieu est un Dieu d'ordre, de vie. Hein, Dieu est un Dieu de vie incroyable. Notre corps grouille de vie. Ça grouille de vie. Mais Dieu ne s'est pas dit, ouais, allez, on va mettre du sang, on va mettre quelques petits trucs à gauche, à droite, et puis ça y va. Non, non, tout est tellement structuré, on voit bien, dès qu'il y a un petit souci, c'est tout l'ensemble qui en souffre. Donc, je pense qu'il faut poser un bon cadre. Hein. Et on va encore aujourd'hui donc regarder, donc ce sera peut-être plus biblique, plus théologique, et les deux suivants, quoi que dimanche prochain, non, là enfin, on va faire quand même la fête. Il y a des choses que le Seigneur veut nous dire. Donc dimanche prochain sera un peu particulier. Mais les autres, en juin, je voudrais vraiment nous équiper pour concrètement comment vivre, comment tenir la raquette, comment jouer sur le terrain, comment bien vivre hein, la relation avec le Saint-Esprit. C'est capital, c'est ça notre spécificité. Il y a une belle petite équipe qui a mis en couleur hier. Tout est presque nickel. On va remettre les chaises. Mais ce n'est pas ça notre force. C'est super, hein, c'est gai, rentrer dans un beau bâtiment, il va faire bon, super. Et c'est chouette d'avoir une belle sonorisation, génial. Ça, ce sont des moyens. Des moyens. Le potentiel de l'Église, c'est le Christ en nous. C'est le Christ en nous. Et donc, Seigneur n'a pas de souci non plus de se glorifier dans une Église souterraine. En Chine, certains doivent se cacher. Pas de souci. Hein. Si le Christ est là, c'est bon. Ne nous fions pas à la couleur, à la qualité du son et des chaises, notre force, notre spécificité. Alors quand un chant est porté par l'Esprit, quand l'Église est portée par l'Esprit, je voudrais vraiment graver ça dans votre cœur. Il y a vraiment une pensée essentielle que je voudrais graver dans nos cœurs hein, ce matin, ce cadre. Alors on va lire deux textes. J'espère que vous avez compris que le cadre que je veux placer, en tout cas que l'Écriture place, quand on parle du Saint-Esprit, souvent on cloisonne. Il y a le Père, il y a Jésus, il y a l'Esprit. Si je veux savoir ce que ça signifie être rempli, je dois regarder à la vie de Jésus. Et il y a un lien indissoluble entre le ministère de Jésus, sa vie humaine, et le Saint-Esprit. Il a été enfanté par l'Esprit. Il est le modèle, de la vie de l'Esprit, un homme rempli de l'Esprit. Ce qui veut dire que la matière sur laquelle l'Esprit a travaillé, c'était le corps humain de Jésus. Ce sur quoi l'Esprit va travailler, c'est notre corps. C'est ce que nous sommes. Et il ne va pas faire quelque chose de différent. Jésus est notre modèle, notre prototype. Ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il veut que nous vivions. Christ en nous, par son esprit, c'est l'assurance de la gloire. C'est ça qu'il va faire. Et j'ai besoin de... Donc ce matin, je voudrais qu'on regarde deux épisodes de la vie de Jésus où c'est très clair que c'est l'esprit qui prend les commandes. C'est l'esprit qui permet que Jésus soit ce qu'il est. Et quand je comprends ça, je vais comprendre ce que l'esprit va faire aussi en moi. On va parler de sa naissance et de son baptême. OK ? Deux textes. L'annonce. Le sixième mois, on est dans l'évangile de Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, petite bourgade, hein, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Marie, Marie, oh Marie, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie entend, se dit, oh oui, elle dit à l'ange, beau programme, mais comment pour ça, cela se le fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Et l'ange lui dit, écoutez bien, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 30 ans plus tard, comme tout le peuple était baptisé, Jean-Baptiste avait été envoyé, le grand personnage qui annonce la venue du Messie. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Rien que cette parole devrait nous attacher tellement à Jésus. Nous dire, même si avec cette parole-là dans l'Écriture du Nouveau Testament, quelque part, j'ai envie, on aurait assez pour suivre Jésus, être passionné de Jésus et vouloir ressembler à Jésus. Le Père dit, tu es mon bien-aimé et tu as toute mon approbation. C'est cet homme-là qui a mon approbation. Pour bien parler de la deuxième personne de la Trinité, du Fils, Fils de Dieu, du Fils qui s'est incarné, nous devons parler du Saint-Esprit. Jésus est ce qu'il est, Jésus fait ce qu'il fait, non pas dans un équilibre statique, parfois on présente ça comme ça dans les confessions de foi, deux natures en lui, divine et humaine, elles sont là de manière très statique, pas du tout. Jésus est et fait ce qu'il fait à cause de l'interférence, à cause de la relation, de l'interaction entre son humanité et sa divinité, activée par le Saint-Esprit. Il y a une action continue de l'Esprit en lui qui unisse son humanité et sa divinité. Et Jésus, on l'a dit, est le modèle pour nous, c'est le prototype de ce que c'est être un homme, une femme rempli de l'Esprit. Ce qui veut dire que entre l'humanité de Jésus et nous, il y a des rapports, il y a des liens. J'en vois deux, au moins. Le texte est très clair, Marie ne comprenait pas. Par l'action de l'Esprit en elle, elle ne va pas mettre un personnage de la mythologie ou quelqu'un de vraiment bizarre avec des ailes. Non, non. Écoutez bien, Jésus va devenir un homme comme nous. Par l'action de l'Esprit, Dieu se limite. Hein, en Philippiens, à la kénose, il se dépouille et il devient quelqu'un comme nous. À la naissance, Marie n'a pas pris une espèce de mi-homme-mi-dieu, qui n'a pas besoin de boire, qui pleure jamais, qui marche déjà, qui parle. Il avait la même condition que nous, même nature que nous. Il a eu un corps souffrant, un corps mortel comme nous. Il a vécu sur la même scène que nous. Il a été soumis aux mêmes conditions que nous. Il a eu une vie humaine réelle comme nous, une chair humaine réelle comme nous, une mort humaine comme nous. Il a eu une vraie résurrection. Il était vraiment mort depuis 3 jours. Une vraie résurrection. Il a eu la même vie que nous. Et vous allez voir pourquoi c'est important de mettre ce cadre. Il a eu la même chair que nous, le même ressenti que nous, les mêmes fatigues, les mêmes besoins que nous. Et le deuxième rapport, c'est que l'Esprit a agi dans son humanité. L'Esprit a agi dans cet homme. Tout ce qu'on voit que Jésus fait, à ce moment-là, c'est pas qu'il est... C'est Dieu et pas vraiment l'homme. C'est dans l'homme que l'Esprit a agi. Dans cet homme-là, à un certain moment, il tressaillait d'allégresse. Pas toujours, comme nous, on peut le vivre. Il y a des moments, il était rempli de colère, il a été fatigué. C'est dans le même corps que nous, dans le même être que nous, la même nature. On n'a pas quelque part à mettre Jésus dans une vitrine en disant « oui, c'était Jésus ». C'était la même nature que nous. Et l'Esprit a agi dans cet homme-là comme il veut le faire aussi en nous. Parfois, on se disqualifie nous-mêmes. Non, ouais, non, ah, ça, c'est pas de l'humilité, ça. C'est un complexe d'infériorité qui va t'empêcher de rentrer dans toute la dimension de ton appel. Il a eu le même corps que toi, la même fatigue que toi. Ne te culpabilise pas quand tu es fatigué, quand tu as faim, quand tu en as marre. Jésus, plusieurs fois, dit, mais j'en ai marre de votre incrédulité. Les disciples, à un certain moment, ils disent, écoutez les gars, vous ne voulez pas aller vous promener, vous ne voulez pas, et vous n'êtes pas parti. Je vais devoir encore vous le dire combien de fois. Même homme, mais l'Esprit a agi dans la même humanité que nous. Allons plus loin. Ce Jésus incarné, pleinement homme, qui va mourir, qui va ressusciter, qui va monter auprès du Père, la Bible nous dit que ce Jésus-là reçoit les choses dans son héritage, dans sa gloire, c'est lui qui va détenir le don de l'Esprit. C'est lui qui va gérer le ministère de l'Esprit. Tout pouvoir lui sera donné dans les cieux. Et son premier mandat, c'est de gérer le ministère de l'Esprit. Pas pour lui seulement. Ce qu'il avait vécu sur terre, vous savez ce qu'il fait? La première chose, c'est ce que Pierre dit. À la Pentecôte, ce Jésus qui règne, il a reçu du Père le don de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour tous ceux qui croient, il le donne. Il faut vraiment placer cela dans nos vies. On ne commence bien à bien penser l'Esprit que dans ce cadre-là. Il le donne pour que ce que l'Esprit avait fait en lui en tant qu'homme, il le fasse maintenant chez chaque disciple, sur toi, en toi, en chacun d'entre nous. Les 3 000 l'ont expérimenté. Et puis 2 000 encore. Et puis en Samarie. Et puis en Césarée. Et puis en Antioche. Et puis à Philippe. Et puis à Charleroi. C'est toujours la même chose. Jésus dans les cieux, il est absent. Mais c'est lui qui a reçu, dans la relation avec le Saint-Esprit, Esprit, moi, j'ai fait ma part. Mais tu es mon esprit. Et je suis toi. Redescends maintenant. Et tous ceux qui vont dire, oui, Jésus, oui, je crois, remplis-les. Ce que tu as fait en moi, fais-le en eux. Alors, on a besoin d'aller un peu plus loin et de regarder maintenant les différents aspects de la vie de l'esprit en Jésus. Et vous allez voir, c'est la même chose qu'il fait en nous. C'est la même chose qu'il fait en nous. Dans le Nouveau Testament, on voit que l'Esprit exerce une action initiatrice, une action créatrice, une action qui met en mouvement, une action initiatrice dans le Christ. Il a initié quelque chose en Jésus qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Et vous allez voir que cette action qu'il a initiée, qu'il a créée en Jésus, c'est ça qu'il va faire en nous. Donc, je ne fais pas de la théologie pour faire de la théologie, mais je veux vraiment qu'on balise la route, pour qu'on se rende compte que tel il est, tel nous sommes, tel il a vécu, tel l'Esprit a fait en lui, il va le faire en nous. Là, on voit le Saint-Esprit initier des choses en Jésus et aussi en nous. Vous savez que c'est par l'Esprit que Jésus devient Jésus. C'est par l'Esprit que Christ devient Christ. Ah, on est tellement habitué, on a l'impression que Christ, c'est le nom de famille de Jésus. Vous savez que Christ, en grec comme en hébreu, ça veut dire « oint ». C'est l'image qui parcourt toute l'Écriture. L'onction, c'est l'huile qui met à part, mais c'est le symbole de l'Esprit qui vient. Le Messie, c'est celui qui était « oint », qui était rempli de l'Esprit pour accomplir son œuvre de salut. Jésus devient le Christ par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et vous savez quoi ? Nous devenons chrétiens par le même esprit. Nous devenons oints, nous devenons sanctifiés par le Saint-Esprit. Alors quand on pense à l'action initiatrice de l'Esprit dans la vie de Jésus, on pense à deux textes, sa naissance et son baptême. Et dans ces deux événements primordiaux de l'Écriture, chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes, qui est décisif dans ces étapes. C'est par sa naissance et par son baptême qu'il va être institué dans son ministère. Regardez, c'est intéressant de voir dans les évangiles, quatre évangiles. Les quatre évangiles nous relatent le baptême. Et deux seulement nous parlent de la naissance. Quatre nous parlent du baptême et deux de la naissance. Comme si la naissance était déjà présumée, acquise, pour nous parler du baptême. L'action du Saint-Esprit avait déjà été accomplie, plus besoin de le rappeler, parce que ce que l'Esprit va faire au baptême, quelque part, éclipse ce qui a été fait auparavant. Imaginons, Matthieu et Luc nous rapportent la naissance de Jésus. Luc plus longuement. Si la naissance rapportée par ces deux évangélistes n'avait été suivie de rien d'autre, une vie tranquille, pépère, à Nazareth, on reprend la société de papa, je vais être charpentier. S'il n'y avait plus rien après, on se dit, mais waouh, il y a un souci. On nous a annoncé la venue du Sauveur, du Fils de Dieu, et puis plus rien. La naissance prend un sens profond, grâce au ministère. Et de même, d'un autre côté, si il n'y avait que le récit du baptême, où on voit un homme qui est appelé, qui est oint pour une vocation messianique, si on ne nous avait pas dit que, oui, mais ce Jésus qui est baptisé, il ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Il a une origine mystérieuse. Ce n'est pas une question d'hérédité humaine. Si on ne nous avait pas dit ça, alors toute la suite du ministère de Jésus poserait problème. Il dit, mais c'est qui ? C'est qui ce monsieur dont on ne sait rien ? Il fallait les deux. Pour comprendre le baptême de Jésus, il faut qu'on comprenne, qu'on présuppose sa naissance. Pendant 30 ans, et Marie ne comprenait pas, pendant 30 ans, la nouvelle alliance était cachée dans l'ancienne. D'ailleurs, Luc démarre avec Élisabeth et Zacharie, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'ancienne alliance. Hein, un couple de prêtres, et ils nous sont présentés comme des personnages, hauts personnages de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance, elle est cachée à ce moment-là. Elle attend l'heure où Jésus va se révéler. Mais le fondement a été posé. Tout ce qui va arriver par la suite repose sur quoi ? Le miracle de Noël. Ça a déjà été fait. Pendant 30 ans, on ne voit rien. Mais l'action de l'Esprit dans la Vierge avait déjà été accompli, un homme nouveau était né. La naissance virginale de Jésus annonce un événement nouveau et unique, accompli dans notre humanité. Il y a quelque chose qui s'est fait là, qui n'a jamais été fait, qui ne se fera plus jamais. Un homme nouveau voit le jour. Et ça, notre humanité ne pouvait pas l'accomplir. Parce que nous, dans notre humanité, jusqu'aux racines de notre être, nous sommes en révolte contre Dieu. La Bible dit on est mort dans nos péchés, dans nos transgressions, incapable d'avoir une relation juste avec Dieu. Incapable. On n'avait pas la possibilité de rentrer en contact avec Dieu. Notre humanité, dit l'Écriture, était dévoyée, égarée. Une telle réconciliation avec Dieu, une telle unité, un tel miracle était nécessaire. Et ce miracle, il a eu lieu par l'action de l'Esprit qui donne à un homme visité par Dieu un potentiel nouveau, une nouvelle qualification. Marie et Joseph, aussi justes soient-ils, n'avaient pas les moyens de donner naissance à une nouvelle humanité qui va devenir temple de la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas ce moyen. Et si malgré tout Marie devient la mère du Fils de Dieu, ce n'est pas en vertu de quelque chose qu'elle avait en elle-même, mais c'est uniquement à cause de la faveur de Dieu, de la puissance de l'Esprit qui vient sur elle, qui la couvre de son ombre et forme en elle celui qui sera appelé le Fils de Dieu. Marie n'apporte rien en propre, mais c'est l'Esprit qui permet que la parole, la deuxième personne de la Trinité, devienne chair. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais tout ça va prendre sa pleine dimension, va devenir visible, et va prendre vraiment sa pleine dimension. Tout ça va être très clair lors du baptême de Jésus. Alors, les choses seront évidentes. C'est là que Jésus va être investi personnellement, publiquement, de sa charge messianique. La nouvelle alliance avait sommeillé pendant 30 ans, mais maintenant, elle s'éclaire. Baptême et naissance sont donc des endroits, des lieux pivots, des lieux pivots dans la vie de Jésus. Et tout va devenir clair dans le baptême. L'Esprit va se poser. On peut même dire, si vous regardez le baptême, on a là, d'une manière nucléaire, embryonnaire, tout le ministère de Jésus. Tout ce qu'il est venu accomplir, on le voit dans le baptême. Le baptême me parle de sa croix. Vous vous dites comment ? Ben oui. Les gens se baptisaient à ce moment-là pour se repentir du péché. Ils devaient rentrer complètement dans l'eau, comme s'il y avait une mort. Jésus dit, je vais aussi subir un baptême de la mort. Le baptême me montre déjà la croix. Il va devoir s'identifier au pécheur. Il rentre dans l'eau. Mais le baptême me parle aussi de la résurrection. Parce qu'il va sortir de l'eau. Il s'est identifié au péché, mais il sort de l'eau pour une vie nouvelle. Et la Pentecôte est déjà manifestée aussi parce que l'Esprit va descendre sur lui. Pour l'habilité. L'Esprit était déjà là, mais il va prendre sa juste place. On voit que tout ce qui se passe dans le Jourdain, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Jésus, à ce moment-là, est rempli de l'Esprit. À partir de ce moment-là, l'Esprit va lui donner toute l'autorité, toute la puissance. Et le texte qui suit, c'est Luc 4. Jésus est là à Nazareth, et dans la synagogue. Et le texte dit, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Quand Pierre va en parler à Corneille, acte 10, il dira, vous savez comment Dieu a déversé une onction de l'Esprit et de puissance sur Jésus. Il était enfanté par l'Esprit et son ministère était porté par l'Esprit. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Et nous? Donc Jésus a inauguré vraiment des temps nouveaux, une humanité nouvelle, habilitée par l'Esprit et nous. Eh bien, vous savez que ce que l'Esprit a fait dans la tête, il va le faire dans le corps. Ce que l'Esprit a fait en Jésus, il va le répercuter dans chaque membre du corps. C'est l'Esprit qui a amené Jésus à la naissance. C'est l'Esprit qui a amené Jésus à la naissance. C'est l'Esprit qui a amené Jésus au baptême. Vous savez quoi? C'est lui qui vous amène à la nouvelle naissance. C'est lui qui vient habiter en vous et c'est lui qui vous baptise. Le parallèle est tout à fait exact. La naissance du Christ, comme la naissance spirituelle, notre naissance spirituelle, la naissance des chrétiens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui rend à notre humanité déchue, séparée de Dieu, cette capacité d'être en relation avec Dieu. Peut-être avant tu étais religieux, mais il n'y avait pas de contact avec Dieu. Quand l'Esprit vient, comme il a donné naissance à Jésus, « Oui Marie, je vais te couvrir et tu vas donner naissance. » Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est cette action de l'Esprit qui nous saisit et qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous donne une capacité nouvelle, tout d'abord une relation nouvelle avec lui. Jean dit à tous ceux qui ont cru en Jésus, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont accepté, qui croient en son nom, vous savez quoi? Il a donné à ces personnes-là le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il a fait naître Jésus et il nous fait naître de nouveau. Pour faire naître un chrétien, il ne s'agit pas d'être un bon vendeur. Pour faire naître un chrétien, comme pour faire naître Jésus, il faut un acte créateur et miraculeux du Saint-Esprit qui va donner à notre nature déchue, d'abord le pardon, mais la capacité de rentrer en relation avec Dieu et de vivre pour Dieu. Alors que dans notre déchéance, je ne pouvais pas le faire. C'est Jacques qui dit, de sa propre volonté, il nous a engendrés. C'est lui qui nous a fait naître. Et vous allez voir, il y aura une grande implication à tout cela. Ce dont parle le Nouveau Testament utilise le mot de la régénération. Le Saint-Esprit vient nous régénérer, vient nous donner sa vie. Vous me dites, oui, mais le mot régénération est peu utilisé dans le Nouveau Testament. On parle plus quand même de la foi et de la repentance. C'est vrai. Un peu comme la naissance et le baptême. Je vais vous expliquer pourquoi. La régénération du chrétien, c'est moins une question d'expérience spirituelle consciente qu'un événement réel. L'Esprit vient et il te régénère. Parfois, tu ne le sais même pas. Il met sa vie. Et la conséquence, c'est que tu vas pouvoir croire, te repentir et accepter. Ce que je veux dire, c'est que ma foi, mon adhésion, ma repentance, ce n'est pas l'homme naturel qui peut le faire. Non, ma chair, elle est opposée à Dieu. Pour que je puisse un jour ouvrir les yeux sur mon état spirituel, croire, me repentir et accepter, il faut que j'aie été régénéré. Ce n'est pas une finesse, hein, mais vous allez voir l'implication. L'Esprit vient, il me régénère. Et cette expérience-là, elle n'est pas toujours ressentie au niveau de la conscience, au niveau physique, au niveau émotionnel. Mais je suis déjà régénéré. Et cela va avoir pour conséquence, j'ai une capacité de mettre ma foi, de rentrer dans une expérience sensitive, émotionnelle. Certains vont pleurer, d'autres vont sauter de joie, d'autres vont être écrasés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais leur part consciente, elle va se manifester maintenant par le choix, par la décision. Mais le fondement a été posé par la régénération faite par l'Esprit. Et c'est la même chose que la naissance et le baptême. C'est ça le parallèle que l'Écriture fait. À la naissance, il y a eu une régénération. Le Christ est venu. Et il est rentré dans son ministère au baptême. C'est la même idée pour nous. L'Esprit vient. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. L'Esprit est comme le vent. Il souffle où il veut. Il y a une action dans ta vie. Parfois, tu ne t'en rends pas compte. Il te fait naître de nouveau. Et toi, tu rentres en jeu. La manifestation de cette action, c'est que tu commences maintenant. Tu crois, tu te repens. Dans ton expérience, tu deviens enfant de Dieu. C'est la conséquence de ce qu'il a fait en toi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Écoutez bien, c'est l'idée majeure. Là où nous comprenons vraiment que la vie chrétienne est reconnue comme l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, dans un lieu où on reconnaît vraiment que la vie chrétienne, elle dépend de l'œuvre du Saint-Esprit, il est logique de considérer toute la vie chrétienne comme dépendante de l'Esprit. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ça. Si je reconnais bien que j'ai vécu la même chose que Jésus, j'ai été enfanté par l'Esprit, c'est lui qui m'a fait naître de nouveau. Et je l'ai manifesté en croyant, en me repentant, en venant à lui. Quand je reconnais que ce que je suis, c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit, il est normal que je continue une telle dépendance. Et on va développer, je vais nous donner des moyens pratiques concrets. Mais je voudrais vraiment implanter ça en nous. La vie chrétienne, c'est une question de dépendance du Saint-Esprit. Je suis né de l'Esprit, il y a un nouveau genre humain qui est né. Le chrétien, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est un nouveau genre humain qui a été régénéré, vivifié par le Saint-Esprit. C'est lui qui est aux commandes, comme avec Jésus. Comme à sa naissance, comme à son baptême. Et j'ai été incorporé à la famille de Dieu par le baptême. Dans le Nouveau Testament, on voit cela. Hein, ma foi, ma repentance, elle se manifeste, c'est pour ça qu'ils étaient baptisés tout de suite, par le baptême, je suis incorporé. Ma vie commence. Mais j'ai besoin de comprendre que celui qui était aux commandes, celui qui a permis tout cela, c'est le Saint-Esprit. Là où le commencement de la vie chrétienne est reconnu comme l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, il est logique de considérer que toute la vie chrétienne soit dépendante de l'Esprit. Je suis dépendant de son inspiration. Je suis dépendant de sa motivation. Je suis dépendant de ses dons, de ses fruits, de son influence. Je suis dépendant de lui. Sans lui, je ne peux rien faire. On voit ça dans la vie de Jésus. Ce n'est pas la nature humaine de Jésus qui a fait tout ce qu'il a fait après le baptême. C'est la vie de l'Esprit. Et nous croyons si souvent, ouais, hein, on bâtit des œuvres, on bâtit des cathédrales avec la sagesse humaine. Mais avec ça, on n'avance pas spirituellement. Ce ne sera pas par votre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et là, on reconnaît que la vie chrétienne, elle a été générée par le Saint-Esprit. Alors là, on est prêt à dire, je dois dépendre de lui. Je dois dépendre de lui. L'acte créateur divin, et pas ma propre décision, a fait de moi un chrétien. L'acte créateur divin, et pas ma propre décision, a fait de moi un chrétien. Alors, je dois continuer sur les mêmes rails. Je dois dépendre de l'action divine pour me maintenir tel que je suis et pour rentrer effectivement dans ma vocation. Jésus n'a pas dit à l'Esprit, « Oh, merci d'être descendu la colombe. Allez, regarde ce que je vais faire. » Non, non, rempli de l'Esprit, il va à Nazareth. Vous voyez notre mode de vie. Et je voulais dire tout cela pour nous dire qu'il y a des êtres vivants qui doivent vivre dans l'eau. D'autres doivent vivre en dehors de l'eau. Le chrétien, il doit vivre dans l'Esprit. Sinon, ce que nous offrons, c'est nos vies naturelles. Mais le monde fait la même chose. Même potentiel, mais eux vont sur Mars. Même Jésus, dans son ministère, dépendait de la vie de l'Esprit. Je termine par deux actes. Nous reconnaissons que nous vivons le même parcours que Jésus. Il est né et nous naissons de nouveau par l'action du Saint-Esprit. Il était baptisé et l'Esprit a pris sa place. De même, par le baptême que nous prenons en sa mort et en sa vie, nous rendons ces choses effectives, effectives et inachevées. Je vous ai dit, au baptême, tout le ministère de Jésus était illustré, mais il a dû y rentrer. De même, par notre nouvelle naissance, par le baptême, c'est effectif. L'Esprit a pris place et il nous a recréés. Mais c'est inachevé. Je vais devoir aussi connaître le chemin de la croix, le chemin de la résurrection, le chemin de la communion de ses souffrances. Il y a toute une vie, toute une vie. Le mot d'ordre pour nous, je termine avec cela. Un verbe. Demeurer. Le poisson doit demeurer dans l'eau. L'être humain doit sortir de l'eau. Le chrétien doit être immergé dans la vie de l'Esprit. C'est notre mode de vie. Regardez le Nouveau Testament. Que de problèmes parfois dans les églises. Pourquoi ? Vous étiez charnel, vous n'étiez pas dans l'eau de l'Esprit, et vous le êtes encore maintenant. Les soucis de l'Église viennent quand ? Quand c'est l'homme naturel qui décide. Nous sommes un peuple, nous sommes nés de l'action de l'Esprit, nous vivons de l'Esprit. Alors laissons-le, n'aie pas peur. Il va faire la même chose qu'avec le Christ. Nous rendre attirants. Hein, Seigneur, Jésus dit, certains refuseront. Ils vont vous détester, ok. Mais tous ceux qui vont entendre Dieu à travers vous vont vous suivre. S'ils m'ont accepté, ils vont vous accepter. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Et vous, Jésus dit, mais vous allez accomplir des œuvres plus grandes. Mes amis, je crois que le Seigneur a mis l'Église au repos pendant une bonne année pour que nous sortions de là, comme au baptême. Remplis de lui. Hein, ça ne repart pas trop longtemps parce qu'on redémarre. Au mois de juin, je vais donner des conseils bibliques tout simples pour nous aider à nager en dessous de l'eau. Mais je voulais vraiment nous dire que là où le commencement de la vie chrétienne est reconnu comme l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, c'est normal alors qu'on considère toute la vie chrétienne comme dépendante de l'Esprit. Tu es dépendant de lui. Est-ce que c'est on voit ça dans mon agenda ? Que je suis quelqu'un de dépendant du Saint-Esprit. Dépendant. Quand on pense à la dépendance, on pense à des exemples souvent très, très dramatiques. Des gens parfois ne sortent pas de leur lit sans avoir bu un litre d'alcool. Ils sont tellement dépendants, tellement dépendants. Nous sommes dépendants de l'illumination du Saint-Esprit. Tu as beau lire la Bible 20 fois par an, s'il n'y a pas l'illumination, ça ne sert pas à grand-chose. Mais une petite portion de la Bible, illuminée par le Saint-Esprit, nous sommes des êtres dépendants du Saint-Esprit. C'est un mode de vie et je crois que c'est notre force et parfois la faiblesse du peuple de Dieu. Quand on a chanté pour démarrer, est-ce que je peux imaginer ce qui va se passer? Parfois, on n'y pense pas beaucoup, ça ne nous attire pas beaucoup. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui peut se passer avec des hommes et des femmes, une église remplie du Saint-Esprit? Tellement dépendant. Vous ne revenez pas des réunions. Nous revenons parce que nous sommes dépendants de la vie du Christ en nous. Oui, les musiciens, vous pouvez venir. Nous sommes dépendants. On n'est pas là pour pousser la chansonnette. On est là pour activer la vie du Saint-Esprit. On est là pour entendre la parole de Dieu, pour que ça active la vie. On est dépendant de ses dons, de ses fruits, de ce qu'il procure, de sa vie, de sa puissance. Si c'est l'acte créateur de Dieu qui a fait ce que nous sommes, alors on doit maintenir ça. On doit maintenir cet acquis et l'approfondir. Il faut que je continue cette œuvre et que ça devienne effectif. On les avait reconnus, ils avaient été avec Jésus. On ne pouvait pas les rater. D'ailleurs, on a même mis un sobriquet, vous êtes des chrétiens. Oh, on vous reconnaît, il y a la vie du Christ en vous. Il faut qu'on nous reconnaisse. Oh, pas parce qu'on est des gens bizarres, mais parce qu'il y a une vie qui coule. Le cadre a été posé. Nous dépendons complètement, comme Jésus. Complètement. Si l'Esprit ne vient pas sur Marie, rien. Si l'Esprit ne descend pas au baptême, rien. Si l'Esprit ne t'a pas visité, tu ne serais pas là en train d'écouter. Tu ne passeras pas par le baptême. Et tu ne porteras pas de fruits. Mais si c'est l'Esprit qui t'a fait naître, waouh, alors les amis, ça va déménager. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie.